Bonjour cher Sangha, bonjour Pai, cher Sangha. Nous sommes le 16 novembre 2013. Je vais commencer par des excuses. Je m'excuse Monique et le groupe des nouveaux dont j'ai interrompu la réunion hier. Ben, vous étiez en réunion, puis j'étais rentré un peu comme un chien dans un jeu de quilles. Je m'excuse. Alors, donc, mes excuses. Je m'excuse, Gilles, et le groupe, la famille, je ne sais pas trop quoi, encore, d'être rentré. J'ai ces énergies d'habitude lorsque je suis pressé dans le temps. Et durant cette retraite, je ne sais pas pourquoi, mais je sens cette frénésie en moi. Et je dois me souvenir qu'on est ici pour pratiquer et que je dois essayer de modeler la pratique, et je me prends à ne pas très très bien pratiquer. Alors, c'est pour ça que je me suis excusé. J'ai des bonnes excuses. Alors là, donc premièrement les excuses, deuxièmement les bonnes excuses pour les excuses. Nous sommes en train d'apprendre le Sutra du Lotus. Dans le Sutra du Lotus, c'est un merveilleux enseignement. Un enseignement qui couvre tous les enseignements du bouddhisme, qui parle de l'appui du dharma. Mais ce pourquoi j'aime tellement ce sutra, c'est parce que c'est plein de petites histoires. Alors les amis qui ont été avec nous il y a 2 mois, à la journée de pleine conscience, ont pu apprendre l'histoire ou la parabole de la maison en feu. La maison en feu, c'est cette histoire d'un monsieur qui est très aisé, très riche, il a une très très grande maison, mais dans le temps, les standards de feu n'étaient pas très bons. Une grande maison, mais une seule sortie. Et il était revenu d'un voyage, a vu que la maison était en feu. Ses enfants étaient là, donc il était inquiet, et il voulait les prévenir pour qu'ils sortent de la maison et s'en échappent. Il a dit, « Hey, les boys, faites attention, la maison est en feu, sortez. » Mais les enfants étaient toujours trop occupés avec plein de choses, des rapports à faire pour lundi matin, etc. On a un tas de choses qu'il faut toujours finir. Donc, ils ne s'en occupaient pas. Alors, le papa a dû trouver un moyen habile pour leur dire, pour les sortir de leur inattention, et a pu, par le moyen habile où il a en promis, des beaux jouets. Alors lorsque les enfants ont entendu parler des beaux jouets, yes, ils se sont tous sortis et s'en sont sauvés. Alors donc, ces petites histoires, à première vue anodines, m'amusent beaucoup et j'aime beaucoup m'asseoir en méditation avec ces histoires. Et chaque fois que je m'assois avec ces histoires, il y a toujours des nouvelles leçons qui arrivent. Et aujourd'hui, parce que je suis tellement pressé dans le temps, cette histoire me revient encore et me fait sourire parce que peut-être que ce qui me brûle, c'est cette notion du temps où je m'aperçois que j'en ai tellement peu en avant, j'en ai gaspillé tellement en arrière et c'est devenu très critique pour moi. Je devais partir lundi pour 6 mois et 2 jours avant la retraite, je lui dis, ça n'a pas d'allure, mais si tu rentres dans une retraite, avec toute ta liste de choses à faire, le peu de temps que tu as. Alors donc, je nous suis donné 1 semaine de plus, mais cette énergie qui est là, et cette liste de choses qui attend, c'est toujours là. Puis, alors, merci pour votre générosité, et la cloche devra sonner plus souvent pour moi, pour que je me rappelle de m'arrêter. Et donc, j'ai besoin de votre aide et de votre support pour pouvoir me rappeler à l'ordre. Pour nous permettre de pouvoir être un peu plus relax dans le temps, et c'est ça que nous voulons faire dans une retraite, c'est être relax, je demanderai aux organisateurs de nous donner du temps entre les activités. Ce matin, cette énergie qui m'a poussé à courir, j'étais assis dans ma chambre et Là, je dis OK. Il faut que je me prépare à faire un dharmatalk. Il faut que je sois à mon meilleur. Il faut que je vous raconte des choses inouïes que vous n'avez jamais entendues et qui vont vous marquer pour le restant de votre vie. Blablabla. Et là, j'étais pris dans toutes mes pensées et comment faire. Ma porte était ouverte. Alors là, j'entendais la discussion de la famille à côté. Puis là, je dis, ben, s'ils sont encore là, c'est que je suis à temps. Soudain, je regarde ma montre. Il était 10h20. Je regarde l'horaire et c'était 10h15, le dharmatalk. Est-ce que j'ai la bonne heure? Peut-être que j'ai mal ajusté ma montre. C'est pour ça que j'ai dérangé Gilles. Je dis, hey, c'est quoi? Qu'est-ce que vous faites ici? Alors tout ça pour nous dire que si nous pouvons, durant la retraite, nous donner un peu de temps entre les activités pour pouvoir avoir plus de relax. J'ai arrêté ce matin aussi pendant 5 minutes pour nous permettre de nous déposer ici. Parce que je sais que vous venez tout juste de sortir d'une discussion. Et je sais que les discussions de famille sont très intenses. Et c'était pour nous permettre de nous reposer. C'était aussi pour me permettre de retrouver ma voix. Alors ce matin, j'ai rencontré Jen Ho, mon frère Nam. Hier soir, j'ai passé 2 heures dans le noble silence avec mon frère Jen Ho, que je n'ai pas vu depuis très longtemps. Et ce matin, j'ai vu Marie, puis là, je dis, Marie, s'il vous plaît, aidez-moi, parce que j'ai perdu ma voix. V-O-I-X. Donc j'ai retrouvé ma voix X avec ma voix E. Une autre chose aussi concernant le temps. Hier, j'avais entendu la belle présentation de Diane. La participation aux activités est complètement optionnelle. La seule obligatoire, c'est quand je suis là. Non, mais c'est ça. Nous sommes ici pour nous donner le beau cadeau du temps. Alors, le temps, c'est à nous. Toutes les activités ne sont que des options qui vous sont offertes. Mais la chose la plus importante, c'est que vous puissiez vivre ce temps, profiter de ce temps et de vous le donner à vous et rien qu'à vous. Un noble silence. Et hier, Diane nous a mentionné aussi que c'était très important. Je suis d'accord avec Diane et j'ai essayé de le pratiquer. Et j'ai trouvé cela difficile, mais très rewarding. Le silence que nous voulons pratiquer, c'est beaucoup plus que le silence de la parole. C'est surtout le silence interne. Le silence que nous nous aidons à maintenir durant la retraite aide à ce silence qu'on appelle le silence noble, le silence qui guérit. Le silence noble, c'est aussi l'ouverture du cœur dont je vous ai parlé hier. C'est laisser de côté le parapluie, c'est enlever la membrane pour permettre à la pluie du dharma de pouvoir nous toucher. Permettre à la pluie du dharma de pouvoir éteindre les feux qui brûlent en nous. Et les feux brûlent continuellement. Et la question, lorsque je pratique la pleine conscience, c'est quoi le feu qui est en train de brûler en moi? Et comment est-ce que je peux ouvrir mon cœur? Comment est-ce que je peux laisser ce dharma venir pour rafraîchir, pour éteindre ces feux pour moi? Hier, je n'ai pas pu rester pour être avec Monique pour l'orientation. Mais je sais qu'elle vous a parlé du réveil en pleine conscience. Alors dans notre retraite, nous aurons l'occasion de nous réveiller encore demain matin. Et je pense que on peut être à 99,99 et puis beaucoup de neuf après, certains que nous allons nous réveiller demain encore dans notre chambre, dans cette retraite. Et la pratique que j'ai recommandée à tous les amis qui pratiquent avec nous, c'est le gatha du réveil, le réveil en souriant. Je me réveille en souriant pour accueillir 24 heures toutes nouvelles. Je fais le vœu de les vivre dans la pleine conscience et de regarder tous les êtres avec les yeux de la compassion. Alors c'est cette pratique que j'essaie de pratiquer à chaque matin depuis que mon maître me l'a enseignée. Et c'est cette pratique que j'invite tous mes amis à pratiquer dans leur vie quotidienne. Quand j'ai commencé à partager cette pratique avec nos amis, j'avais donné une garantie, et je peux encore vous la redonner. C'est que si vous pratiquez ce réveil pendant 7 jours consécutifs, votre vie va changer. Et si, après l'avoir fait de façon constante et diligente 7 matins de suite, et que vous ne trouvez pas qu'il y a eu un changement dans votre vie, que vous pourrez nous demander, non pas nous, vous pourrez demander un remboursement des frais de cette retraite à Joanne. Alors notre pratique, c'est cette pratique qui est très simple, qui consiste à s'arrêter pour pouvoir être présent et reconnaître tous les miracles qui sont en train de se passer dans l'instant présent. Et je pense qu'il n'y a rien de mieux le matin que de se réveiller et de s'apercevoir qu'on est vivant, de s'apercevoir qu'on est là, de regarder et de voir que nous sommes encore dans notre corps bien entier, bien portant, et que nous sommes dans une place qui est très sécuritaire. Et se rappeler de cela ne peut qu'apporter beaucoup de gratitude et la joie qui provient de la gratitude. J'ai pratiqué cela ce matin, encore. Et depuis un bout de temps, je me suis dit, c'est une pratique qui est tellement merveilleuse que de pouvoir s'arrêter et sourire, être en contact avec tout ce qu'il y a de beau et tout ce qu'il y a de merveilleux dans l'instant. Que pourquoi se limiter seulement au matin? Et c'est pour ça que là, je viens encore de le réciter et je viens encore de le pratiquer. Parce que le réveil, ce n'est pas juste une fois par jour, mais le réveil peut être à chaque fois qu'il y a un son de cloche. Et le réveil, c'est chaque fois qu'il y a une nouvelle respiration. Alors j'étais peut-être quelque part dans l'oubli et je viens de me réveiller. Et je me réveille encore en souriant. Et les 24 heures commencent maintenant. 24 heures ont commencé à 8 heures, à 6 heures, à 5 heures, à l'heure où on s'est levé. Mais 24 heures ont aussi commencé juste là, maintenant. Et les 24 heures qui commencent maintenant sont aussi toutes nouvelles. Alors, c'est mon invitation pour nous de nous réveiller à chaque instant, pour à chaque instant reconnaître et accueillir 24 heures toutes nouvelles. Et de se renouveler le vœu de les vivre dans la pleine conscience. Parce que ce n'est que dans la pleine conscience que la vie existe. Et lorsqu'on n'est pas dans la pleine conscience, lorsqu'on n'est pas dans la conscience, nous pouvons être, trois points. L'image qui me vient, c'est l'image des zombies, des morts vivants. Alors on peut en voir beaucoup autour de nous, qui marchent, qui font un tas de choses, mais qui ne sont pas là. Et c'est très facile de le voir lorsqu'on sait ce que c'est que d'être présent et d'être en contact avec la vie. Alors donc, maintenant que nous sommes tous réveillés ensemble et que nous avons 24 heures, en fait on n'a pas 24 heures, on a seulement une heure. Aujourd'hui, ce que je voulais vous proposer, c'est rien de moins que une pluie du dharma. Dans cette retraite, hier, je me suis présenté comme l'enseignant. Mais lorsqu'on apprend, qu'on a appris, ou lorsqu'on est en contact, ou lorsqu'on est en pratique, de la fleur du dharma. C'est ça le nom du sutra. Alors, on l'appelle le sutra du lotus, mais en vietnamien, on l'appelle le dharma, la fleur du dharma. Pháp Hoa. Ou bien on l'appelle la fleur du lotus du merveilleux sutra Yéhovablingwa. Mais là, je m'aventure parce qu'il y a des champions vietnamiens ici. Lorsqu'on est dans l'étude du sutra du lotus, on apprend à entendre, à écouter, à voir le monde autour de nous, ce qui se passe autour de nous, dans deux dimensions. Et on parle de la dimension historique, la dimension dans laquelle nous sommes. On n'oublie jamais que cette dimension historique dans laquelle nous sommes fait partie ou est une manifestation d'une dimension qu'on appelle la dimension ultime. Et lorsque je dis que je suis l'enseignant, je parle de la vague que vous voyez, la vague qui est née il y a trop longtemps déjà, qui commence à dépérir et qui va s'effacer à un moment donné. Et cette vague qui est née, qui a grandi et qui subside, c'est l'enseignant Chen Hui qui vous parle. L'apparence que vous voyez, c'est cette apparence de la dimension historique que vous voyez. Mais Chen Hui est aussi une manifestation d'une autre dimension, la dimension ultime, la dimension de l'eau. Et la vague qui naît et qui meurt passe par ces réalités. Mais l'eau qui est là est faite d'une nature ultime. L'eau qui fait, qui contient, qui supporte la vague n'a ni naissance ni mort. L'eau qui est là est la base. Et dans cette eau-là, dans cette base, on reconnaît ou bien on y trouve Taittanyakan, on y trouve le Bouddha, on y trouve le Seigneur Jésus. Et toute cette dimension ultime, toute cette réalité qui se manifeste dans la vague de Chen Hui est présente ici et maintenant, lorsque nous pouvons être arrivés, comme Lily nous l'a guidé, comme Lily nous l'a amené, quand nous sommes arrivés chez nous, ici et maintenant, nous touchons cette réalité, nous touchons cette dimension et nous sommes en contact avec le Seigneur Bouddha, avec tous nos maîtres, avec le Seigneur Jésus. Et lorsque nous prenons le sutra du lotus encore, et lorsque nous apprenons l'appli du dharma, et lorsque nous apprenons les moyens habiles, nous voyons que l'appli est universelle et que les gouttes de pluie que nous recevons peuvent des fois porter la saveur ou la flavor, la saveur ou la couleur que nous pouvons appeler bouddhisme ou que nous pouvons appeler islam ou que nous pouvons appeler jainisme. Mais ce ne sont que les moyens habiles de cette grande divinité que nous pouvons appeler Dieu. Et Dieu se manifeste à un moment donné comme Jésus, à un moment, notre moment donné comme Bouddha, pour pouvoir adresser au monde qui sont là à l'époque dans le langage qui leur convient. Nous sommes au Canada, nous sommes à Montréal, nous sommes au Québec. Et cette pluie-là continue de nous arroser. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur, le grand honneur, de vous exposer à cette pluie dont je n'ai été qu'une première goutte. Avec moi aujourd'hui, dans cette grande dimension dont je vous parle, mon maître est présent avec nous. Et mon maître se manifeste comme le Bouddha, dans 10 000 images, dans des millions d'images différentes. Et ici, nous avons des images très éloquentes des manifestations de mon maître ou de ce que nous appelons le corps du Bouddha. Bouddha Kaya. Alors mon maître s'est renouvelé, mon maître s'est remanifesté, mon maître s'est multiplié de la même façon que le Bouddha l'a été depuis l'éternité et la nuit des temps. Et il s'est manifesté ici, présentement, dans mon frère Tiengo, Dhammacharya de Ottawa, dans ma sœur Nyum, Dhammacharya de Montréal, dans ma sœur Lily, Dhammacharya de la MPC IPCAM de Montréal, mon frère Tiengo, Dhammacharya aussi de Montréal. Ensemble, avec vous, avec nous, avec mes frères et sœurs de l'ordre de l'inter-être, nous manifestons et nous continuons l'œuvre du Bouddha pour faire une chose. Qu'est-ce que nous faisons? Mon maître s'appelle Nyakhan. Nyak, c'est une action. Et l'action de mon maître, c'est de poursuivre l'œuvre du Bouddha pour soulager la souffrance dans le monde. Et Thaï sait que c'est une job énorme. Et il sait que c'est une job qui est sans fin. Et c'est pour ça qu'il s'est multiplié, comme le Bodhisattva Avalokita, que vous voyez des fois avec le Bodhisattva à 1000 bras. Et mon maître a aussi 1000 bras, comme le Bodhisattva Avalokita. Et j'ai aujourd'hui l'honneur de vous en présenter quelques-uns. Et donc hier, j'avais demandé à mes frères et sœurs de m'aider à pleuvoir, non? Est-ce qu'on peut dire je pleux? Non, ok. Nous pleuvons, non? Non plus. Donc, avec mes amis, on va manifester la pluie du Dharma. Et la pluie du Dharma, je ne sais pas c'est qui va être la goutte qui suit, ou l'autre goutte, parce qu'il n'y a pas de avant ni après. Hier, Anjung m'avait mentionné qu'il pourrait nous entretenir sur la souffrance. La souffrance qui est la première noble vérité. Alors nous pourrons commencer avec la première. Et Lily avait mentionné qu'elle pourrait parler des instruments, des outils. Et c'est les quatrièmes nobles vérités. Et aujourd'hui, quand Tianho était venu, là je lui ai dit, yes, ok, là tu pourras aussi faire quelque chose. Mais il ne m'a pas dit encore ce qu'il allait faire. Alors, je vous laisse la surprise. Ça va être une surprise pour moi aussi. Et sur ce, ben, bon arrosage, bonne nourriture.
Alors, vous m'entendez bien? Je vais essayer de ne pas trop crier. Alors, je suis très heureux d'être ici. Et je trouve toujours un bonheur de revenir au Québec. Le Québec qui m'a nourri, le Québec qui m'a forgé et le Québec qui m'a donné toutes ses chances de réussir ma vie. Alors, en tout et partout, j'ai passé 25 ans presque dans la province. Et le reste de mes 25 ans se passe de l'autre côté de la rivière, chez le monde canadien-anglais, qui est une autre belle culture, une autre belle solitude, avec la solitude de la culture québécoise. J'étais arrivé à Québec à l'âge de 18 ans. Aujourd'hui, quand j'y pense, je reproche les prêtres jésuites qui m'ont tant parlé du Québec quand j'ai fréquenté le centre Alexandre Rode à Saigon pendant mon temps d'étudiant. Alors, ils n'arrêtent pas de montrer les belles images de Québec, mais ils nous ont jamais parlé de l'hiver. C'était dur, l'hiver. Donc, j'arrive à 18 ans. Tout est nouveau. Tout est à apprendre, tout est à s'adapter. Et vous savez, Tianhui a parlé de l'énergie d'habitude. Nous avons tous des habitudes. On court du matin jusqu'au soir. Et cette énergie d'habitude, dans le langage sanskrit, si ma mémoire est bonne, ça s'appelle Vachana. Ça fait partie de nos obstacles dans notre pratique. Alors, mon Vachana à moi, c'était de manger la soupe en faisant beaucoup de bruit quand j'étais à la cantine de la résidence de l'Université Laval pendant la première semaine. Je mangeais la soupe en faisant du bruit. Ça faisait partie de l'habitude des Vietnamiens. Et puis, toute l'étape à côté, on me regarde avec les gros yeux. Qu'est-ce que je fais de mal? Ah, donc, j'ai appris aujourd'hui à m'adapter, à manger de la soupe, en ne pas faisant du bruit. Mais c'est dur. C'est mieux. Donc ces habitudes-là nous suivent, mais vous savez, les habitudes viennent aussi de notre façon de vivre. On était élevé comme ça. Alors, la culture, c'est aussi notre façon de vivre. Mais si vite, je m'adaptais assez facilement à la culture québécoise. D'abord, il y a la musique qui est si belle. Alors, dès la première semaine, je tombais en amour avec la musique québécoise. Alors, je me rappelle de cette chanson « Quand les bateaux s'en vont » par Jacques Blanchet. J'écoute ça et puis mon cœur vibre. Bon, c'était facile pour moi de m'adapter. Et vous savez que le peuple québécois est un peuple qui a une joie de vivre qui se transmet par votre jovialité. On parle fort lundi matin quand on se rencontre. Puis, comment c'était ta fin de semaine? Le chajaz. Alors, dans mon équipe de chercheurs au Conseil national de recherche, avec mes amis québécois, on parlait fort dans le couloir et on dérangeait les Canadiens anglais, et on s'est fait convoquer dans le bureau de mon patron. Adoucir vos voix, trouver un autre temps pour partager vos joies de fin de semaine, vous nous dérangez. Alors, vous savez, la jovialité, ce grand rire brouhaha dans le couloir, on ne trouve pas ça chez les Canadiens anglais. C'était tellement si silencieux. Alors, donc, c'est une qualité de chez vous. Cet accueil chaleureux que nous avons reçu comme étudiants vietnamiens, je ne peux pas dire plus que le mot impeccable. Et ce respect de l'autre, on vous donne assez d'espace et on vous embarque d'une façon spontanée. Alors, quand on a vécu au Vietnam pendant la guerre, pendant très longtemps, vous savez, tout le monde, c'est des broussailles. On marche sur vos pieds. Tasse-toi, parce que c'est comme ça. On est trop nombreux. Il y avait la guerre. Chacun pense à soi. Sauf qui peut, en fait, dans cet état des années 60. Donc, c'était des années très difficiles. Et comme tout bon Vietnamien, j'ai appris aussi à mentir. Alors, on se présente devant la police nationale pour demander un visa pour aller étudier au Canada. Si vous dites ça, vous n'allez pas recevoir de très, très bons accueils parce qu'on est jaloux de vous. Nous, on est en guerre. Comment ça, toi, tu peux partir pour étudier à l'étranger? Il y a la jalousie qui se manifeste. Et puis, on va tout faire pour que tes demandes soient en difficulté. Alors là, je me présente devant le grand policier en haut avec sa carabine. Où vas-tu? Monsieur, je vais m'enrôler dans la police. Ah, la porte numéro 9. C'est bien. Mais en fait, une fois rentré, je me dévie vers la porte numéro 10, où on fait les demandes pour les visas, sans se faire harceler. Mais en arrivant ici, on apprend à ne plus avoir besoin de tout ça. C'est plus ouvert, plus acceptable, plus accueillant, plus joyeux. Et il y a aussi la musique qui est une caractéristique de ce peuple. Alors, vous voyez, je viens de vous faire un sommaire de la charte des valeurs québécoises. Donc, je me vagabonde à travers ça. Le bouddhisme était venu chez moi tout naturellement par l'héritage de nos parents. Mais on ne comprend rien. Les chants, les récitations sont toujours dans un langage difficile à comprendre parce que c'est du... ce qu'on appelle en vietnamien du hanom, c'est du... c'est un peu la langue de littérature très littéraire, en fait. C'est, on emploie du chinois. Et notre maître, Thich Nhat Hanh, figure parmi les rares moines vietnamiens à traduire tous les sutras dans une langue vietnamienne populaire, facile à comprendre. Et c'est grâce à tout ça, aujourd'hui, on a aussi des textes en français et en anglais. Facile à comprendre. Facile à comprendre, mais pour les nouveaux qui viennent d'arriver à une retraite, il faut faire attention parce que c'est une pluie qui peut être incroyable et qui peut vous surcharger. En anglais, on a le mot « overwhelm ». Donc, il faut faire attention. On prend une partie à la fois. Pas trop arrosé. Alors, ce matin, on a traversé des très beaux textes. On a chanté le chœur de la Prajnaparamita. Et moi, comme ingénieur, ben, j'ai fini mes études. En ce moment-là, et on était un peu en plein milieu de la guerre. On était un peu déboussolés. Vous savez, on perd la boussole. Et on ne sait plus quoi faire, quoi prendre. Le pays est en tourbillon, turmoil. On se pose plein de questions. Alors moi, j'étais chanceux. Bon, j'ai rencontré mon maître. Plus tard, et c'était grâce à ça que j'arrive à mieux rectifier ma façon de vivre, de mieux trouver un bon chemin pour prendre soin de nous. Alors, depuis ce temps-là, ben, j'embrasse cet enseignement, et puis... En continuant de nous embrasser, on se donne 5 entraînements, ensuite 14 entraînements. Donc la robe brune, ce n'est pas un signe de rang ou de cadre élevé, mais c'est plutôt un embrassement personnel d'un engagement qu'on aime faire. Donc il ne faut pas regarder ça comme... Lui, il a la grosse brune, il doit mieux travailler, mieux pratiquer que moi, du tout. Nous, on a aussi nos faiblesses. On a aussi nos moments de difficulté. Et parfois, même si les deux rails sont là, vous savez, avec l'étoile du Nord, qui nous éclaircit, ça nous arrive aussi de nous dérailler. Parce qu'on a aussi des habitudes qui sont ancrées en nous, des éléments dans la conscience qui font éruption. Il faut bien faire attention. Kaboum! Mais on se relève, on se remet sur le chemin et on continue de marcher. Alors, comme un ingénieur, je suis tellement séduit par les nombres. J'adore les nombres. Alors, quand je tombe sur les nombres du Dharma, je deviens passionné. Je ne sais pas comment le Bouddha a fait, mais en tout cas, il a pensé à tout ça il y a 2600 ans. Incroyable. Il y a une logique dans tous les sutras. Il n'y en a que des nombres. Ce matin, on parle des cinq skandhas, n'est-ce pas? Cinq. Et il y a ce corps. Ce corps en anglais, on peut dire bone and flesh. Ce corps qui est tellement difficile à y prendre soin. Juste cette partie-là déjà, c'est à bien prendre soin. Il y a des cours de yoga, il y a des cours de qigong, il y a des cours de danse, il y a des exercices lents, la natation, tout ça. Il faut qu'on arrive à prendre soin de nous. C'est important parce que quand ce corps-là est en difficulté, nos sentiments sont dérangés. Il y a 2 semaines, on a changé un comptoir de cuisine chez nous et j'ai sous-estimé le poids de la micro-ondes. Je soulève, c'était tellement facile, mais en descendant, le poids m'a pris. Puis j'ai fait une entorse du dos et ça a été toute une leçon pour moi. Vous voyez que quand on n'est pas bien, donc il faut apprendre à apprivoiser notre corps, à prendre soin de notre corps. Donc la pratique de la pleine conscience nous permet de faire des choses plus lentement, malgré qu'on a encore cette habitude de courir. Mais avec le temps, vous allez trouver qu'on va s'arrêter avec le temps. Et puis, il y a les 4 autres qui se manifestent. Et les 4 autres font partie de ce qu'on appelle l'esprit. Alors, dans l'esprit, j'ai des sensations. La sensation de douleur de dos, c'est une sensation non plaisante. Donc, il faut que je sois conscient de cette sensation. Parfois, cet esprit se manifeste sous forme d'une perception. Et cette perception fait que on peut avoir un peu de misère quand on perçoit mal. Comme disait souvent notre maître, on voyait une corde sur notre passage et on croyait que c'est un serpent. Et on commence à courir, mais les villageois commencent à mettre de la lumière et on voit que ce n'est rien qu'une corde. Et on est content. Donc, notre perception, elle n'est pas toujours bonne. Même le Bouddha a dit que dès qu'il y a une perception, il y a déception. Donc, il faut qu'on fasse très attention de nos perceptions. Êtes-vous sûr, c'est ce qu'on dit souvent dans la pratique. Et puis, il y a aussi les sentiments qui viennent, qu'on parle de formation mentale, mais c'est un mot trop scientifique. Enfin, les manifestations d'esprit, la colère, la jalousie, l'irritation, enfin, tout ce qu'on peut sentir, c'est la manifestation de l'esprit. Et finalement, il y a cet élément de la conscience qui sont en nous et qui contient tout. Du moment que nous sommes conçus dans le ventre de notre maman jusqu'au jour où nous sommes nés, et puis tout le reste de notre bagage qui se forme avec le temps sont toujours des éléments de conscience qui sont en nous. On est bombardé jour et nuit selon le sutra de Prajnaparamita que nous avons récité ce matin. Vous voyez qu'on a, les 6 organes de sang et qui perçoit un truc, il crée un élément. Les yeux, le nez, les oreilles, notre langue, le corps, et puis ce savoir, ce mental, qui est notre conscience. Alors ça forme à peu près, précisément, 18 éléments. Et ces 18 éléments, c'est vraiment l'univers que nous concevons. Il n'y a pas autre chose. Tout passe. Et puis à travers ça, il y a une couche qui vient voiler un petit peu ce que nous recevons. D'après la psychologie bouddhiste, cette couche s'appelle le 7e élément de conscience, ou le mot sanskrit, c'est le manas. Le manas est important dans le sens que c'est notre instinct. Alors, vous traversez la rue en pleine conscience, mais s'il y a un camion qui vient, vous ne respirez pas en attendant le camion. Le manas va vous sauver, il va vous pousser pour éviter d'aller de l'autre côté de la rue. Mais en même temps, il nous protège. Il fait en sorte que notre moi devienne tellement important. Moi, moi et moi. Donc, quand il fait comme un filtre et il ne vous donne pas la vraie image. Donc, grâce à la pleine conscience, d'après les textes bouddhistes, on va essayer de réduire ce filtre de telle sorte que ce que nous percevons, ce que nous captons, devienne plus proche à la réalité telle que les choses se présentent. Or, on a parlé des 5. Quand ces 5 ne sont pas en harmonie, c'est la cause de nos souffrances. Quand le corps ne fonctionne pas bien, on n'est pas bien. Quand on a une sensation, il faisait moins 25, puis on attend dehors sous la neige, je voyais tous les Vietnamiens et les Laotiens, les Cambodgiens, les Africains qui prenaient l'autobus devant le pavillon parent dans une grosse tempête de neige, juste pour aller au pavillon 5 minutes plus loin, parce qu'ils n'arrivent pas à marcher. C'est une sensation, des fois, non plaisante. Alors, à travers tout ça, quand les 5 éléments qui constituent notre être ne sont pas en harmonie, on a ce qu'on appelle un mal-être, n'est-ce pas? J'aime beaucoup ce mot. J'aime pas le mot souffrance. J'aime le mot mal-être. En anglais, c'est ill-being. Donc, il y a des causes qui mènent vers le mal-être. Mais il y a aussi le bien-être et le chemin qui mène vers le bonheur. Donc, ça, c'est une cause de souffrance. Si vous étudiez le sutra de la rotation de la roue du dharma que le Bouddha a prononcé quand il a atteint l'éveil, il est allé voir les frères Kodana pour partager de son éveil. Les frères qui ont dit que ben toi tu nous as quittés, tu as lâché la pratique ascétique. Ils avaient une misère à accepter le Bouddha parce qu'il a bu du lait, il a mangé, il n'a plus pratiqué l'ascétisme. Et puis le Bouddha a réussi à convaincre les cinq frères Kodana que la voie extrême, ce n'est pas une bonne voie. Alors, il l'issue de sa première causerie, c'est que il faut être modéré. La modération a meilleur goût. C'est dangereux. Faut pas prendre l'extrême, être au milieu. Ça, c'est laisser aller entièrement. Et ça, c'est pratique austère. Ce matin, nous avons eu une très bonne partage dans notre groupe. J'ai beaucoup appris. Et un mot qui m'est resté, c'est le mot discipline. Donc, dans notre pratique, il faut un minimum de discipline si on veut réussir à atteindre un certain bien-être. Et le deuxième point que le Bouddha a soulevé, c'était les quatre nobles vérités. Encore là, vous voyez, un autre chiffre. Moi qui adore les chiffres. Alors, il y a le mal-être, la première vérité. La deuxième, c'est les causes qui mènent vers le mal-être. Une des causes, je vous ai parlé, de la non-harmonie des cinq agrégats. Et puis, il y a le bien-être. Et puis, le quatrième, c'est le chemin qui mène vers le bien-être. Et le troisième partie de ce discours, il a mentionné que il ne faut pas qu'on reste dans son coin. Il faut qu'on sorte pour aider les autres. Donc, c'est un chemin engagé. D'où vient le mot « engagé » ? Il faut qu'on s'engage dans le monde. Alors, sur ce, je félicite notre frère Chen Hui, Lily et toute la belle équipe pour votre belle œuvre que vous êtes en train de poursuivre. Il y a beaucoup de générosité, beaucoup de travail, beaucoup de labeur. Et nous en sommes ici, nous profitons de cette joie. C'est grâce à toutes ces années d'édification que je suis très reconnaissant. Donc, on doit s'engager un petit peu. Mais avant tout, il faut qu'on s'engage pour prendre soin de nous. Alors, la première chanson que vous avez chantée hier, c'était « Je suis chez moi, je suis arrivé, il n'y a qu'ici, et maintenant, bien souvent, non, bien solide, vraiment libre, je prends refuge en moi-même, n'est-ce pas ? » Alors, le retour à l'île du soi. Comment je suis moi pour que je puisse prendre refuge en moi-même ? Alors, je vous laisse à penser à tout ça. Le temps file. Ça pourrait être la suite avec Lily. Alors, je vais m'arrêter ici et je vous remercie vivement.
Vous avez promis une pluie puis un buffet. Alors là, je pense que vous êtes bien servi, n'est-ce pas?
Comme a dit Chen Wei, il y a de très belles images dans le Sutra du Lotus. Avant de connaître le Lotus, le Sutra du Lotus, j'avais entendu l'histoire du Bouddha qui était devant tous les bodhisattvas et tous les moines et les moniales, et plein de monde. Et oui, c'était Thaï qui le racontait. Et le Bouddha, par compassion, et c'est comme un cadeau qu'il faisait à tous ses disciples qui étaient devant lui. C'est comme s'il il les a soulevés de terre et il leur a montré, ça s'appelle un stupa, c'est comme un mini-temple magnifique, précieux, qui cachait la réalité telle qu'elle est. Nous, on ne la voit pas, cette réalité. On est dans la dimension historique. On est dans notre quotidien de tous les jours. On est dans notre vécu, on est dans notre petit moi. Mais le Bouddha, comme il voulait faire sortir tous ses enfants de la maison en feu, une autre image, c'est qu'il les a tous soulevés et il leur a montré, il dit, regardez ce que vous pouvez atteindre si vous pratiquez bien. Mais après, cette image s'est estompée et on se retrouve dans la dimension historique. Et ça, c'est notre lot. On commence à comprendre ce qui se passe de l'autre côté ou bien l'autre côté de la dimension historique. On est toujours dans la vague. Et on commence à voir qu'il y a de l'eau aussi. Et on voudrait rester dans l'eau. Mais on ne peut pas rester dans l'eau on n'a pas des vagues, si on ne vit pas les vagues, si on ne traverse pas tout cela. Tout à l'heure, dans ma discussion de famille, j'ai dit que j'étais dans ma bulle pendant très longtemps, avant de connaître le Dharma. Et c'était ça. Ma bulle, c'était que je ne voyais rien. J'étais dans mon monde. En fait, j'étais en moi-même, mais pas dans le bon sens, pas dans le moi-même de la chanson. C'était un moi très petit, exclusif, et je ne voyais rien de ce qui se passait autour de moi. Et quand j'ai entendu parler de l'histoire du stupa merveilleux qui s'ouvre de la réalité devant moi, ça aussi c'est une bulle, mais c'est une bulle qui s'ouvre, mais c'est une bulle merveilleuse, c'est celle-là que je devrais plutôt connaître. Et donc, il fallait s'ouvrir énormément. Mais la réalité telle qu'elle est, c'est notre quotidien. Et c'est ce que nous devons faire, ce que nous avons à faire tous les jours et que nous ne pouvons pas nier. Et les moyens habiles du Bouddha, tout ce qu'il a utilisé pour que l'être humain réussissent à s'éveiller comme lui et à soulager sa souffrance, son insatisfaction. Ce sont ses enseignements. Il y en a beaucoup, je n'ai pas le temps, ce sont ses outils. Il y en a beaucoup et il y a plein de chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, il y en a plein. Concrètement, notre pratique à nous tous les jours, ce sont des choses très simples. D'abord l'arrêt. S'il vous plaît, m'arrêtez avec une petite cloche parce que je vais partir. C'est la première chose qu'on nous apprend. Quand je suis arrivée au village des érables la première fois, je ne savais rien de la pratique. Zéro. Rien. Et ce qui m'a frappée, mon premier souvenir, c'est quand j'ai entendu une très grande cloche, c'est plus grande que celle-là, et que tout le monde s'est arrêté. Moi qui arrivais de l'école, j'enseignais aux deuxièmes petits-enfants de 2 ans, de 7 ans, plein d'énergie, cette frénésie, dans une autre sorte de frénésie, tout le monde s'arrête. Et eux, ils étaient concentrés, et moi j'étais en train de les regarder, je dis, mais qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils s'arrêtent? Et je me tournais, je me retournais, je voyais, qu'est-ce que c'est? Après, j'ai appris, qu'est-ce que c'était l'arrêt? S'arrêter, c'est pas marcher vite et puis faire comme ça. Faire comme ça et s'arrêter. Tout en marchant. Ça, c'est difficile. D'avancer et d'être arrêté en même temps. Et d'être arrêté, pourquoi? Parce qu'on est déjà parti dans nos pensées. On est déjà parti dans nos ruminations, dans nos tracas, dans nos soucis, dans nos anxiétés, dans notre angoisse. Alors, il faut qu'on apprenne à s'arrêter pour ne pas se laisser perturber par tout ça. Et l'outil de base, c'est la cloche. Grosse, petite. Si on n'a pas de cloche, téléphone. Un téléphone. Un cri d'enfant, un rire, un pleur, les oiseaux. Un orage, tout ce qui peut vous faire revenir à vous-même, la cloche, pour s'arrêter. Il y a plusieurs façons de s'arrêter dans la journée. Quand on s'arrête, qu'est-ce qu'on fait? On respire. Ça peut paraître vraiment puéril de dire « respire ». On s'est longtemps moqué de moi, dans ma famille. Respire, respire, respire. Mais un jour, j'étais en retraite au village des Pruniers et Thaï, à l'orientation, il a parlé de respirer. Et dans ma tête, je me suis dit, j'ai eu cet élan de dire, oh, il le dit toujours. Mais vous savez quoi? Bouddha est venu par derrière et il m'a dit, est-ce que tu sais respirer? Et j'ai eu ce réflexe de dire, est-ce que je sais respirer? Et je me suis arrêtée dans ce mot. C'était comme, c'est pas juste. On pourrait passer toute une... On pourrait partir dans une île avec notre simple respiration et pratiquer la respiration. Parce que dans la respiration, ça peut nous mettre très, 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 très loin. Physique, juste d'abord physique. Je suis en colère. L'air nous calme quand on a peur, quand on est en colère, quand on est pressé. Ça nous fait du bien d'abord et c'est primordial. Mais aussi, quand on s'assoit en méditation assise, quand on s'assoit et qu'on se dit, on a tendance à dire, bon, qu'est-ce que je fais là? Je suis assise, mais non, on revient, on reste dans notre respiration et on la suit et on commence à voir tout l'effet que ça nous fait et dont Chenno a parlé, l'effet que ça nous fait dans notre corps. Ça nous fait dans les sensations. C'est comme, ça me fait du bien, je commence à me détendre, ma peau commence à se délier. Il y a des sensations, il y a toutes sortes de sensations. Et si on rentre dans les sensations, il y en a des milliers. Alors, en 20 minutes, on ne peut pas faire tout ça. Mais, il y en a plein, regardez. Et puis, tout à coup, une sensation, disons, de froid, ou de faim, ou de froid, ou n'importe quoi. On se sent maussade. Et puis, c'est une émotion qui arrive. Quand l'émotion arrive, il y a une pensée, oh, ça me rappelle ça, ou bien j'ai envie de partir, ou bien j'ai envie de rester, ou bien toutes ces choses-là. Pensée, émotion, sensation, tout ça c'est relié. Alors, tout ce qui se passe quand on fait une méditation assise, c'est un autre outil. La méditation marchée, marcher, c'est pas seulement dans une salle de méditation, c'est marcher dans le couloir, marcher dans les métros, marcher dans les hôpitaux, marcher dans la rue, marcher dans la maison, aller à la salle de bain, aller dans une autre chambre, traverser, marcher. Marcher en restant ici, marcher en restant avec nos pieds. Et pas, je vais aller en haut parce que je dois faire une machine, ou bien je dois faire... Parce qu'on est en bas et on est déjà en haut parce qu'on a déjà soulevé la machine, on a déjà mis du linge, on a déjà... Une marche à la fois. Un pas à la fois. Un pas à la fois. Juste ça. Une respiration à la fois. Et on voit que le temps n'existe plus. Parce que, okay, tout à l'heure dans la famille, j'ai dit aussi que avant, c'était les années passent et se succèdent. J'écrivais la tâte au tableau à l'école. Oh, des années. Après, avec la pratique, et non, une chose à la fois. Un jour à la fois. Et maintenant que j'ai beaucoup de choses à faire, un jour, ça ne me suffit pas. Mais aussi, un jour, c'est très long. Il peut se passer des tas de choses. Je peux me lever d'une humeur et me recoucher avec une autre humeur parce que juste en une journée, il s'est passé des tas de choses. Alors ma pratique, elle m'attrape et elle me met dans l'instant. C'est une respiration à la fois. C'est un instant à la fois. Imaginez combien d'instants on a dans une journée. Et à ce moment-là, on est libre. Vous vous rendez compte? Je suis devant la cuisinière, le four. J'ai un réfrigérateur comme à la distance de Marie. Je vais aller chercher quelque chose. Je m'aperçois que j'ai été très vite. Tout à coup, je prends conscience et je marche jusqu'au réfrigérateur, doucement. Et ça, c'est juste dans une journée, ça c'est juste chez moi, ça c'est juste entre le four et le réfrigérateur, la pratique de l'arrêt. Alors, combien d'occasions on a durant la journée pour pratiquer l'arrêt? Tout, aux toilettes, dans la douche, des millions d'arrêts, libres. On est libre complètement. Ça, c'est un des plus difficiles pour moi. Parce que j'adore lire le journal le matin, quand je me lève en lisant, en prenant mon café. C'est mon moment. C'est pas que je suis intéressée par ce qui se passe dans la presse. Non. C'est juste, je sais pas, pain, beurre, café au lait, pas le gros café, juste Erzurumstrudel, c'est tout. C'est juste ça. Mais j'aime. Okay? Alors, j'ai le journal et je lis. Mais quand on m'a dit qu'il fallait que je mange en pleine conscience et que c'était sans le journal et que c'est sans parler, moi je ne parle pas beaucoup de toute façon. Sans rien faire, juste manger. Et moi je mange vite. Vraiment, m'asseoir au restaurant, prendre du temps, parler. Apprécier, t'as vu ça, t'as goûté ça, je m'en fous. Ma sœur est un vrai cordon bleu. Elle va suivre des cours de cuisine en Italie, en France, elle revient avec des diplômes, des grands chefs. Et chaque fois qu'elle revient, elle nous apporte des choses, je ne saurais même pas les nommer, délicatesse, des trucs, machin, goûte, mais goûte. Tout le monde goûte. Non, mais... Ça ne me dit rien. Champagne, les fraises, les truffes, tout ça. C'est comme ça. Donc, manger en pleine conscience, c'est qu'il faut que je... Pas juste le pain, mais il faut que je regarde tout ce que je mange et que je... prennent conscience de tout ce que je mange. Ok, je mange mal. Ça, c'est le pire pour moi. Ok, je mange mal. Je mange vite et je veux me lever. Pas le petit déjeuner, les autres repas. fini déjeuner, je peux rester. Alors, manger en pleine conscience pour regarder d'où vient cette nourriture. Un jour, on était à New York avec mon fils et avec Chenui. Et on était dans un restaurant, je ne sais plus, birman. Et dans notre assiette, il y avait de la nourriture, toutes sortes de couleurs. C'était l'automne. Alors, tout ce qu'il y a dans les arbres, les feuilles d'automne, les mêmes couleurs étaient dans l'assiette. Et je commençais à peine ma pratique. Et je l'ai reconnu. J'ai dit, ça c'est l'automne. Voilà, toutes les couleurs. Orange, vert, jaune, des piments, des toutes sortes de... Et ça, c'était une prise de conscience aussi. C'est un autre arrêt quand on mange. Alors, quand on est assis, quand on marche, quand on mange, quand on est debout, quand on attend à la banque, quand on attend, on est debout, on est là comme ça, debout, quand on attend un autobus, moi j'attends jamais l'autobus, mais pendant qu'on attend, au lieu de s'impatienter et au lieu de dire, bon ben, est-ce qu'ils ont fini, qu'est-ce qu'il attend, ou à la caisse, ou chez IGA, n'importe où, c'est profiter de ce moment pour, comme quand on fait les exercices, mais si vous ne voulez pas fermer les yeux pour ne pas paraître fou, gardez les yeux ouverts, mais vous savez que vous respirez et vous savez que vous n'êtes pas dans le passé ni dans la personne qui va être devant vous tout à l'heure. Vous n'êtes nulle part, vous êtes juste là. Et c'est l'arrêt. Tout ça, c'est dans une journée. Et quand on est allongé, comme Monique va nous faire du body scan aujourd'hui, comment on prend conscience de tout ce qui se passe en nous. Quand on a un corps qui est au repos et qui est allongé. Ça, ce sont les outils de base. C'est des outils qu'on apprend quand on commence à méditer, quand on vient à la MPC ou dans n'importe quel sangha, ou quand c'est qu'on nous arrête. On nous arrête avec une cloche et on nous apprend à nous arrêter. Et c'est très, très, très important de prendre son mental et de lui dire, tu peux penser, tu peux continuer ta course, mais moi je suis là, je suis libre. C'est cette notion de liberté, mais quel bonheur, c'est qu'on est un être vivant sans bagage. On n'a pas de valise. On n'a plus de valise. On est libre. Quand je viens en retraite, j'ai encore beaucoup de papiers à transporter. Mais j'ai de moins en moins de choses pour moi. On doit aller manger. Ils ne sont pas contents à la cuisine parce qu'on était en retard ce matin.